Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Olivia Mailleux. Après avoir exercé comme juriste pendant 15 ans, Olivia s'est d'abord reconvertie dans la communication digitale et plus récemment comme agent immobilier à 48 ans. Depuis toute petite, Olivia rêve de devenir avocate d'affaires en droit international, car elle admire une avocate qu'elle regardait dans une série avec sa mère. Olivia se dirige donc tout naturellement vers la fac de droit, mais comprend très vite qu'elle ne va pas devenir avocate, car cela ne la passionne pas assez. Elle devient responsable juridique et le sera pendant 15 ans dans plusieurs entreprises différentes. Jusqu'au jour de ses 40 ans où Olivia décide qu'elle ne peut pas continuer comme cela pour le reste de sa vie. Elle a besoin de plus de contacts humains et de stimulation. Olivia se reconvertit une première fois pour travailler dans la communication digitale, notamment en tant que community manager. Aujourd'hui, Olivia est conseillère en immobilier depuis quelques mois. Elle vient de se reconvertir à nouveau à 48 ans. Alors avec Olivia, on a évoqué sa carrière de juriste, son déclic à 40 ans, les réactions de son entourage, ses conseils pour se reconvertir avec succès après s'être reconverti deux fois, comment vivre de son activité de freelance dans le digital et du cliché de l'agent immobilier qui gagne très bien sa vie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Olivia. Bonjour Olivia, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
Bonjour, merci de m'accueillir, je suis ravie d'être là et de partager avec toi.
Alors, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, donc je suis Olivia, j'habite dans le sud de la France, dans le Vaucluse. Je suis maman d'un adolescent de 17 ans. J'ai bientôt 49 ans et je suis à ma seconde reconversion professionnelle dans le secteur de l'immobilier.
Oui, alors c'est super intéressant parce que tu t'es reconvertie pour la deuxième fois tout récemment.
Oui, tout à fait.
Et tu avais déjà fait une première reconversion après 15 ans dans le domaine juridique. Alors, on a beaucoup d'auditeurs dans le domaine juridique. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu avais choisi de faire tes études de droit ?
Alors, moi, j'ai toujours voulu être avocate d'affaires internationale depuis que j'ai 7-8 ans. Donc, je pense que ça remonte. Je regardais une série qui s'appelait La loi de Los Angeles avec ma maman, une très, très vieille série dans les années 80. Et donc, je pense que ça m'a marquée. Et donc, pour moi, j'ai toujours dit je serai avocate d'affaires internationales. Donc, ça m'a toujours suivie et j'ai toujours dit que je ferai du droit. Il n'y a pas eu de discussion quand j'ai choisi mon orientation, j'allais faire du droit. Donc, j'ai fait un bac économique, j'ai été en droit et finalement, je me suis rendu compte que je ne serais pas avocate d'affaires internationales, que je ne serais pas avocate d'affaires tout court, ni même avocate. Et j'ai fait mes études de droit, mais je ne me suis pas tellement éclatée. C'était intéressant, mais je n'étais pas passionnée.
Et tes parents, ils t'avaient poussé dans cette voie-là aussi ?
Pas du tout, parce que pour eux, je disais que je voulais être avocate. Donc du coup, ils ne m'avaient pas poussé, ils n'avaient pas eu besoin de me pousser parce que c'était cadré. Mais c'était cadré, ce n'était pas du tout familial, c'était cadré personnel en fait. C'était un choix personnel.
C'était quoi ? Tu avais envie de te montrer que tu pouvais le faire ? C'était de faire comme la série ?
Ouais, je crois que c'était ça. J'avais quelque chose que j'avais... engrangé dans mon esprit. Après, ma mère, elle me disait souvent « Ah, moi, je te vois bien en défendre la veuve et l'orphelin. Je ne sais pas, je pense que c'est quelque chose que j'avais complètement idéalisé. J'ai du mal aujourd'hui à savoir pourquoi j'étais braquée là-dessus, alors qu'avec le recul, moi, j'aurais dû faire des études de lettres. Parce que j'étais très bonne en français, je m'éclatais, moi, dans les analyses de textes, etc. Mais à l'époque, on disait... tu vas faire des études de lettres, c'est pour être prof. Je voulais absolument pas être prof. Et après, on nous disait à cette époque-là, il n'y a rien d'autre à faire avec des études de lettres. Et donc, du coup, j'ai été en droit. J'ai fait mes 4 ans de droit. Je ne me suis pas super éclatée. Et puis, je suis devenue juriste. En fait, j'ai fait mes études de droit à Montpellier. J'étais avec un garçon qui a eu l'opportunité de partir à Paris pour sa vie professionnelle et je l'ai suivi. Et je suis arrivée dans une période à Paris où je suis arrivée à Paris sans boulot, mais j'étais embauchée une semaine après pour faire de l'intérim et j'ai commencé à faire du recouvrement. Il n'y avait pas de chômage à cette époque-là, il n'y avait pas de chômage. En tout cas, dans ma branche et à Paris, c'était facile. Donc, j'ai commencé à faire de l'intérim dans des branches de recouvrement. Je suis rentrée chez Orange. Ce n'était pas le même nom, c'était FTMS à l'époque. Après, je suis rentrée dans une caisse de retraite, après dans un cabinet d'avocat et après à la Massif pour faire de l'immobilier d'entreprise. Voilà, ça c'était 4 ans de mon expérience parisienne.
Et comment t'avais tiré un trait sur avocate?
Oh, très vite, quand j'ai commencé à faire mes études, j'ai bien vu que, en fait, j'ai bien vu que je ne serais pas dans les meilleurs étudiants de droit. Et j'ai senti que j'avais pas envie de non plus de faire des études et d'y rester très très longtemps. Et non, ça m'a vite quittée. Après, tout au long de ma carrière, j'aurais pu hein, passer, parce que quand tu es juriste, quand tu as une expérience en tant que juriste, tu peux faire une passerelle pour devenir avocat. Ça m'a effleuré l'esprit 2 ou 3 fois et puis j'ai perdu ça très vite de vue parce qu'en fait, c'est pas moi.
Donc tout de suite, tu savais que c'était pas pour toi, mais bon, tu disais il faut bien gagner de l'argent en fait, c'est ça un peu dans ta tête?
J'étais en droit, ça me plaisait. Ouais, et puis toujours cette idée de toute façon, le seul truc que j'aurais pu faire à côté, c'était des lettres. Et dans mon esprit et dans ce qui ressortait autour de moi, c'était bah non, lettres, c'était pour être prof et je voulais vraiment pas, enfin, je me voyais pas être prof. Donc du coup, j'étais en droit, ça marchait, je bossais, enfin, ça marchait. Ça marchait parce que je bossais. Puis j'ai continué. Puis après, je me suis dit non, mais il y a des belles carrières en tant que juriste d'entreprise. Et j'ai fait des belles expériences.
Oui, alors après, donc tu as été pour plusieurs entreprises responsable juridique.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi ça consiste et puis comment ça se passait pour toi?
Alors, j'étais responsable juridique donc dans plein de secteurs différents, que ce soit l'e-commerce, l'immobilier d'entreprise, l'assurance, le cabinet d'avocats, etc. J'ai toujours eu des bonnes expériences. Hormis, j'ai passé 9 mois dans un cabinet d'avocats. Bon, j'avais 26 ans et là, ce n'était pas une très, très bonne expérience. Mais sinon, le reste en entreprise, c'était des bonnes expériences avec des bonnes équipes, etc. La plupart du temps, mon travail consistait à rédiger des contrats et également à suivre des procédures judiciaires. J'ai travaillé dans une entreprise qui faisait de la biométrie pour les entreprises avec lesquelles il y avait eu beaucoup de procédures judiciaires et donc je suivais les procédures judiciaires. Donc j'étais en relation avec les avocats, avec les contrats, avec les avocats de la partie adverse, etc. Donc c'était vraiment beaucoup, beaucoup de rédaction juridique et beaucoup de, pour moi, d'isolement.
C'est un métier assez solitaire.
Oui, alors même si tu travailles, puisque j'ai travaillé avec des directrices juridiques, même si tu as beaucoup de contacts avec les parties adverses ou avec les clients, etc., ta journée consiste à être derrière un ordinateur à rédiger des contrats.
Oui, et puis ce que je trouve, c'est qu'au final, on n'y pense pas forcément, mais c'est un métier solitaire parce que aussi c'est un métier où il faut être très concentré. Ça demande, ouais, ça demande beaucoup de concentration, donc on peut pas vraiment s'interrompre pour discuter avec quelqu'un. Et je pense que c'est de là d'où vient cette solitude parce qu'on a besoin de cet isolement, en fait, comme tu dis.
Oui, il faut être très concentré parce qu'il y a quand même des enjeux en place qui sont importants. Tu as quand même la sécurité juridique d'une entreprise entre tes mains, même si tout se rattrape, hein, mais effectivement, il faut rester concentré. C'est un métier de rigueur, de sérieux, de détail.
Et alors, donc, c'est ça qui t'a pesé, parce que donc, tu as fait ça pendant 15 ans à peu près.
Oui.
Comment tu as eu le déclic, un peu, quel a été ton cheminement?
Tu fais bien de parler de cheminement. En fait, je suis rentrée dans une société e-commerce qui faisait du charme sur Internet, en fait. Et donc, je travaillais au service recouvrement, mais avec une équipe de jeunes informaticiens, de jeunes développeurs. C'était une start-up. Quand je suis rentrée dans cette entreprise, on était 13. Et donc, c'était du challenge quotidien, c'était de l'apprentissage quotidien, parce que je découvrais le monde de l'e-commerce. Je découvrais le code, je découvrais tout ce domaine-là avec des gamins de 22 ans qui avaient plein plein de choses à partager et donc c'était passionnant. Donc j'ai quitté cette entreprise au bout de 3 ans. Je suis rentrée dans une autre entreprise très commerciale qui faisait donc de la biométrie, comme je le disais tout à l'heure. Et mon patron qui avait bien vu que je travaillais dans l'e-commerce m'a demandé de gérer toutes les réputations de cette entreprise, qui avait été assez entachée par des histoires commerciales pas très propres dans certaines régions de France. Et donc, j'ai géré parallèlement à mes missions juridiques toutes les réputations de cette entreprise. C'est-à-dire que j'étais en contact avec des webmasters, avec des propriétaires de sites, avec Google également, avec la CNIL, pour que l'image de l'entreprise sur Internet soit la plus propre possible. Donc ça, c'était absolument passionnant. Cette entreprise a été mise en liquidation judiciaire. Donc quand moi, j'ai cherché du travail, j'étais à Aix-en-Provence à ce moment-là. J'ai essayé de vendre mes deux compétences, c'est-à-dire mes compétences juridiques et mes compétences sur le net. C'était très compliqué, les entreprises, je te parle de ça il y a une dizaine d'années, hein, un peu plus, même si c'était en 2009. Donc les entreprises n'étaient pas prêtes encore à ce double cursus et à cette double compétence.
Ouais, ils comprenaient pas trop ce que tu cherchais en fait.
Voilà, ils ne savaient pas trop comment effectivement utiliser mes compétences web. Et donc à ce moment-là, donc j'ai accepté des missions juridiques et qui ont été toutes assez intéressantes. Et puis à ce moment-là, moi je trouvais plus de CDI en fait. Une fois que cette entreprise a été mise en liquidation judiciaire, on ne m'a plus jamais proposé de CDI et j'ai été de CDD en CDD. Et les missions étaient de moins en moins intéressantes et je m'y retrouvais de moins en moins. Par exemple, je suis rentrée dans une entreprise qui a été alors c'était chouette hein, parce que j'étais payée à rien faire, hein, mais 3 mois après, en fait, elle était liquidée. Et ils m'avaient embauchée parce que j'avais déjà vécu une liquidation judiciaire et ils savaient que j'avais les épaules et ils savaient que j'étais quelqu'un d'extérieur et j'avais été embauchée en fait pour presque accompagner les équipes sur place qui, elles, se prenaient de plein fouet une liquidation pour la première fois. Voilà, et donc après, j'ai enchaîné comme ça des expériences. Pas très joyeuse, dont une dernière dans une société d'assurance en France à Nîmes, mais une société d'assurance allemande avec une ambiance que je n'ai pas du tout, du tout, du tout appréciée. Et j'étais en CDD. On m'avait proposé un renouvellement de CDD et je me souviens très bien, j'allais avoir 40 ans et je me souviens très bien, je traversais la rue pour aller prendre mon bus. Et là, je me suis dit, non, mais Olivia, tu peux pas faire ça toute ta vie, c'est pas possible, tu vas avoir 40 ans. Tu peux plus supporter ça, tu n'aimes pas ce job, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu t'ennuies toute la journée, tu n'aimes pas cette entreprise, tu n'aimes pas les gens avec lesquels tu travailles. Et là, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse autre chose, en fait. Je me souviens très bien de ce moment-là.
Ouais, du déclic.
Oui, tout à fait.
Et tu penses que c'était dû à quoi le fait que tu trouvais pas de CDI?
Je pense que c'était la conjecture, en fait. Peut-être aussi que je renvoyais, moi, à cette époque-là, déjà un désintérêt pour mon métier de juriste. Et que certainement j'avais des ondes autour de moi qui se mettaient en place en train de se dire parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que parallèlement à ça quand j'ai été licenciée de l'entreprise de biométrie j'ai créé mon blog très vite j'ai créé mon blog personnel en fait et au début il s'appelait Jurist in the City, raconter mes déboires, mes entretiens d'embauche, etc. Et rapidement, j'ai un client, un professionnel de l'immobilier qui est venu me voir, qui me dit, mais moi, j'adore votre plume, je voudrais que vous écriviez des articles pour moi. Là, je lui dis, oui, très bien, mais vous allez me payer? Il me dit, mais bien sûr, moi, je vais vous payer, je paye tout le monde, je vais vous payer. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais créer mon statut et puis je vais lancer une activité de rédactrice web, rédactrice juridique. Donc, j'ai fait les deux parallèlement pendant 3 ans, en fait. Et c'est comme ça que j'ai fait ma reconversion professionnelle. Il n'y avait pas de formation à l'époque. J'ai fait des MOOC en ligne de community manager, etc. Mais voilà, j'ai tout appris en fait sur mon blog, via mes clients, via mon auto-entreprise et à côté, j'avais mes missions juridiques.
C'est vrai que au final, ça prend du temps en fait, donc faut pas hésiter à lancer comme ça. En fait, quand tu as lancé ton blog, tu te serais jamais dit que ça pourrait devenir ta deuxième carrière. Donc
Ah, pas du tout, pas du tout, du tout. Et c'est pour ça que j'ai été surprise en lui disant, mais vous voulez vraiment me payer, moi? Et là, je me suis dit, mais si lui me paye, il y en aura d'autres qui vont me payer, en fait.
Et donc à ce moment-là, quand tu dis bon bah j'arrête, c'est bon, c'est trop pour moi, tu sais déjà que tu veux te lancer dans la communication digitale?
Alors là, moi, j'étais sur le community management. Après cette expérience, donc pas très agréable à Nîmes, j'ai postulé par réseau. Je suis rentrée par réseau, en fait, dans la métropole de Montpellier, que j'avais déménagé entre-temps. Et je suis rentrée comme chargée de projet web à la métropole de Montpellier, d'abord pour l'été, pour 2 mois au service de la communication. Et puis, ils m'ont rappelé quelques mois après, je suis rentrée au service entreprise, toujours comme chargée de projet web en CDD. Et je suis restée dans cette entreprise 3 ans. Et c'est là vraiment que j'ai tout appris, en fait. Et c'est là vraiment, une fois que j'ai signé mon CDD, je me suis dit, bah, ça y est, je suis plus juriste. Voilà, je fais de la communication digitale. Et mon métier maintenant, c'est de la communication digitale.
Est-ce que tu aurais des conseils pour postuler dans un autre secteur? Parce que c'est pas évident de se faire recruter dans une autre branche quand on veut se reconvertir. Donc, tu vois, pour mettre un peu en avant ces compétences. Alors, tu avais ton blog déjà peut-être créé, tu vois,
Ah bah c'est sûr que par mon blog, j'ai pu prouver, et par mes réseaux sociaux, j'ai pu prouver que je savais gérer, que je savais le faire. Parce que si c'en était tenu à mon CV, je n'aurais jamais, jamais été recrutée. Donc mon blog a été vraiment à la fois un outil d'apprentissage et un outil pour prouver mes compétences. Pour postuler dans un autre secteur, je dis oui, il faut soit faire des stages, soit s'y intéresser, soit enfin prouver effectivement que le secteur que l'on vise, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc d'une façon ou d'une autre, il faut s'en rapprocher. Que ça soit par des actions, je sais pas, payantes, non payantes, par de l'événementiel peut-être. Mais il faut vraiment prouver qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur dans ce secteur-là.
Et comment t'as su que c'était ça qui était fait pour toi à ce moment-là?
Parce que j'avais ce besoin de contact, en fait. Alors, j'adore écrire, donc du coup, j'avais toute cette partie rédaction qui était absolument formidable. J'avais toute cette partie juridique. Les clients me faisaient confiance puisque j'avais 15 ans de juridique derrière moi. Donc, j'avais à la fois cette partie juridique que j'apprécie quand même. Alors, j'apprécie pour de la vulgarisation. J'appréciais plus d'aller au fond toute la journée, par exemple, 9 heures par jour ou 8 heures par jour, je voulais plus faire ça. Maintenant, rédiger des articles de vulgarisation pour des cabinets d'avocats ou des sociétés qui font du droit sur Internet, ça, c'était vraiment chouette. Et puis voilà, et puis j'avais plein de contacts, j'étais en contact avec plein de choses, et puis j'apprenais plein de choses. C'était vraiment où l'époque où on apprenait Internet, enfin on n'apprenait pas Internet, mais on apprenait le community management en faisant en fait. Voilà, il y avait plein de forums, il y avait plein de gens, on se réunissait, on faisait des tweets apéro, avec des gens qui étaient dans les nouvelles technologies, etc. C'était très foisonnant.
Oui, donc là, c'était à peu près en 2015, hein, c'est ça?
Oui, c'est à peu près ça.
Comment a réagi à ton entourage à voilà, ta volonté d'arrêter le juridique?
Alors, mon entourage, mon amoureux, etc., très bien parce qu'il me connaît parfaitement. Après, je me souviens très bien, ma famille et surtout mes parents, mon papa a eu très peur. Parce qu'en fait, il comprenait pas. Il y en avait plein qui comprenaient pas ce que je faisais. Et même toujours, hein, il y a 2 ans, quand je parlais avec mes beaux-parents ou autres, comme j'ai plein d'activités dans la communication digitale, comme tu es indépendant, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, donc tu fais plein de choses. Ils comprennent pas, en fait. Ils savent pas où te mettre. Et puis, tout ce qui est, voilà, cette sphère de réseaux sociaux, gérer des réseaux sociaux, c'est assez obscur pour beaucoup qui ne les utilisent pas au quotidien. Donc, du coup, ça a créé des inquiétudes. Après, tant que j'étais salariée à la métropole, ça allait. C'est après, quand je me suis lancée à mon compte, où effectivement, parce qu'à un moment, j'étais à mon compte à 100%, une fois que j'ai quitté la métropole de Montpellier, je me suis lancée à 100%. Là, ça a créé plus d'inquiétudes.
Et c'est toi qui as eu envie de te lancer à 100%?
Alors, la métropole de Montpellier, c'était vraiment de la précarité. J'étais en CDD, donc j'allais de remplacement congé maternité, remplacement congé. Voilà. Et donc, à la fin, c'était plus possible. J'étais en contrat CDD d'un mois, en fait. Donc, j'étais renouvelée tous les mois. Au bout d'un moment, j'ai dit non, mais là, c'est pire que de la précarité. J'ai dit j'arrête. Et puis, je me sentais les épaules pour me lancer à 100%.
Ouais, t'as aimé ce côté devenir indépendante, être plus libre aussi.
Oui, tout à fait. Ouais, j'avais besoin de ça. Et puis, je me sentais, voilà, après 3 ans d'expérience à la métropole, plus ce que j'avais fait avant, parce que j'avais mon blog, j'avais quelques clients, etc. Donc, je me sentais d'y aller à 100% et d'en vivre pleinement.
Et alors, donc t'as fait ça pendant combien de temps avant de te reconvertir à nouveau?
Et ben, jusqu'à il y a quelques mois. Donc, quand je me suis lancée à 100%, je suis rentrée dans une coopérative d'entreprise. C'est important, je le précise, parce que ça sera important pour la suite. Et j'étais salariée dans cette coopérative, donc à mon compte à 100%, jusqu'en décembre, là, donc pendant 5 ans.
Est-ce que tu penses que c'est facile de vivre du métier comme ça, de freelance dans le digital? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent.
Non, c'est difficile. Alors, ce qui est difficile, c'est d'aller chercher des clients, en fait. De faire son métier quand on sait le faire et quand on l'aime, ça, c'est pas tellement difficile. Mais être indépendant, c'est effectivement, c'est faire de la comptabilité, c'est aller chercher des clients, c'est prospecter, faire du réseau. C'est ça qui est difficile, en fait.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer?
Oh, surtout pas idéaliser ce que c'est. Surtout pas idéaliser l'indépendance. Ne pas le renier aussi. On entend beaucoup de gens qui disent non, mais le salariat, c'est nul. Non, le salariat, c'est pas nul. Le salariat, ça peut être super intéressant. Ça peut être hyper violent selon l'entreprise dans laquelle on est, mais ça peut correspondre vraiment à plein, plein de gens. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'étais indépendante salariée. Donc du coup, j'avais toute cette sécurité qui était intéressante. Mais c'était un statut qui me coûtait très cher aussi. Et après, voilà, je dirais vraiment pas idéaliser et puis oublier que, ne pas oublier que son cœur de métier dans une journée d'indépendant, on ne le fait pas 100% en fait. Il y a voilà, tous les à côté, comptabilité, réseau, prospection. Prospection, c'est pas simple.
Quel conseil tu donnerais justement pour trouver ses premiers clients, un peu tout cet aspect prospection?
Réseau local. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. C'est s'inscrire, aller voir les associations de commerçants, les associations d'entreprises du quartier, de la ville, faire du bouche à oreille. C'est vraiment comme ça. Alors, du bouche à oreille local. Et puis après, il y a aussi plein de réseaux en ligne qui vont se faire. Mais en tout cas, ne pas rester seul. Indépendant et rester seul, c'est pour moi, c'est vraiment se mettre une balle dans le pied, en fait. Il faut vraiment, vraiment réseauter.
C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment tout un aspect de prospection et de vente de ces services, en fait.
Ah oui, parce que personne ne le fera pour nous, en fait. Donc, du coup, on est les seuls pour se vendre. Et ça veut dire qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, utiliser LinkedIn, mais aussi sortir, faire comprendre à notre entourage ce que l'on fait pour qu'ils puissent nous conseiller. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est une énergie qui doit être renouvelée tout le temps, en fait. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que quand on a plein de contrats, ben, on oublie toute cette partie commerciale et prospection. Et puis quand les contrats s'arrêtent, c'est là où effectivement on se remet à prospecter, mais il y a toujours un gap, un délai entre les moments où on dit à notre entourage, bah, coucou, ça y est, je suis dispo, et le moment où les contrats recommencent à tomber, en fait.
Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer pour l'immobilier?
Alors, moi, je suis arrivée cet été où j'étais dans un état de fatigue très, très avancé et où je me suis dit que, en fait, je me suis dit que les algorithmes seraient toujours plus forts que moi. Toujours plus fort que nous, que je n'arrivais plus ou je n'arriverais plus au bout d'un moment à vendre les réseaux sociaux comme je le faisais avant. C'est-à-dire que moi, j'avais plein de casquettes en communication digitale. J'avais un peu de rédaction, rédaction web, rédaction juridique. J'ai très vite perdu des contrats depuis l'arrivée de l'IA et de ChatGPT. J'ai très vite vu, effectivement, j'avais même moi-même des clients hein, qui me disaient, ah, tiens, ça serait bien qu'on utilise l'intelligence artificielle, etc. Donc j'ai très vite compris que ça serait compliqué de garder le même nombre de clients en rédaction, puisqu'ils pouvaient se passer de moi, ou en tout cas ils pouvaient se passer de moi pour la partie la plus importante et me garder juste pour la correction. Moi, j'ai pas envie de faire de la correction de ChatGPT, hein, ça m'intéresse pas. J'avais une partie journaliste, puisque je suis correspondante de presse pour Vaucluse Hebdo, un magazine d'information économique. Donc ça me plaît et ça je l'ai conservé. J'avais une casquette d'enseignante puisque je donnais des cours à des étudiants en alternance et une casquette de formatrice. J'accompagnais les entreprises à effectivement bah, mieux comprendre Instagram, prendre en main LinkedIn, etc. Et cet été, je me suis dit que au bout d'un moment, je me suis dit mais les réseaux sociaux c'est vain en fait. Comment je vais réussir à être enthousiaste et à dire à une entreprise mais oui c'est super, allez sur Instagram, c'est génial, sachant que l'algorithme il est tellement difficile, c'est tellement compliqué de faire sa place. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça va être de plus en plus difficile de tenir ce discours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je continue un petit peu les formations et je leur dis plus que c'est formidable. Enfin, si, je leur dis, c'est formidable. Instagram, LinkedIn sont formidables. Mais par contre, ce n'est pas votre métier et vous ne pourrez pas y passer 20 heures par semaine. Donc, ne vous faites pas mal si vous n'arrivez pas à gagner des followers. Ce n'est pas de votre faute. L'algorithme, il est fait en sorte que c'est difficile, très difficile.
En fait, je pense que ce qui est difficile, c'est que y a toujours quelqu'un qui va arriver avec l'énergie du débutant ou de quelqu'un qui veut se lancer. Et donc, il va tout donner parce que voilà, il est hyper animé par ça, il vient de commencer. Et je pense qu'au bout de quelques années, c'est sûr qu'on fatigue un petit peu plus. Et en fait, on est toujours en compétition avec des gens qui ont cette énergie, en fait.
Oui, c'est ça. Et puis, voilà, la difficulté, des algorithmes qui changent beaucoup, les réseaux sociaux qui changent beaucoup. Et puis, moi, je travaillais avec des professionnels, du tourisme, des entrepreneurs, etc. Et ils ont pas 20 heures par semaine à passer sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je les accompagne à être plus raisonnables, à utiliser ça, à intégrer ça dans leur quotidien pour que ça soit un plaisir, pas une contrainte. Et oui, effectivement, bah, ils ne passeront pas de 1 000 followers à 10 000 followers en 6 mois. C'est pas possible. Mais c'est pas très, très grave. C'est pas le but. Voilà. Donc, j'essaye de les accompagner là-dessus. Et à un moment, je me suis dit, bon, 48 ans, les réseaux sociaux, voilà, comme tu dis, il y a plein d'énergie, plein de jeunes pousses qui arrivent derrière. Moi, j'adore me servir d'Instagram, j'adore me servir de LinkedIn, mais j'ai pas envie de faire des vidéos avec plein de montage, de mettre la dernière musique à la mode, etc. Je le fais de temps en temps parce que ça m'amuse, mais j'ai pas envie de faire ça tout le temps, en fait. Et en étant honnête avec moi-même, je me suis dit, ben voilà, cette appétence-là que j'ai eue pour la communication digitale et pour les réseaux sociaux, elle est en train de s'affaiblir. Et je me suis dit, est-ce que je fais ma reconversion professionnelle maintenant ou est-ce que j'attends dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Et peut-être qu'à 54 ans ou à 53 ans, ça sera plus compliqué qu'à 48. Donc j'ai bien réfléchi en me disant, ben c'est peut-être le moment là d'aller voir autre chose.
Ouais, t'as eu une lassitude.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une lassitude. Oui, c'est vraiment ça.
Et comment t'as choisi conseillère immobilier? Alors, c'est rigolo parce que je pense que un peu tous au fond de nous, on a cette idée de ah, peut-être un jour je
C'est
deviendrai
fou.
ouais.
Ah ouais, j'en ai parlé avec ma communauté. Si tu savais le nombre de personnes qui m'ont dit, ah mais oui, mais moi aussi j'y ai pensé.
En plus, avec toutes les émissions qu'on voit sur les agents immobiliers, c'est sûr que ça donne envie. Alors, comment tu t'es dit, bah, c'est ça qui est fait pour moi, et puis comment tu t'es formée?
Alors, moi, j'ai toujours tourné autour des métiers de l'immobilier. Même quand j'étais étudiante, à un moment, je me suis dit que j'allais faire l'ICH, qui est une école de l'immobilier. Et puis, je n'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait. Régulièrement, dans ma vie professionnelle, je me suis dit, tiens, je vais aller faire de l'immobilier. Sauf que mon papa a toujours été commercial. Il a été commercial dans plein de secteurs différents. Il a fait de la construction de maisons neuves. Très peu de temps, mais il a fait ça. Et en fait, sa carrière d'immobilier nous a conduit à vivre des choses, des moments très chouettes et des moments moins chouettes. Donc moi, je me suis toujours dit que je ne serais jamais commerciale, que je n'étais pas faite pour ça et que je ne voulais pas être commerciale. Donc j'ai toujours réfuté ça. Et puis, ma belle-maman a toujours été commerciale enfin, en tout cas, très longtemps commerciale dans l'immobilier. Elle était à Agenco. Et ces 5 dernières années, elle me disait, viens travailler avec moi, t'es faite pour ça, tu seras bonne, etc. Mais je ne pouvais pas travailler avec belle-maman, c'est pas possible. Je pense qu'on aurait fini sur une scène de rupture et c'était pour l'environnement familial, c'était pas une bonne idée. Et elle est partie à la retraite il y a quelques mois. Et ce côté commercial, certaines personnes m'ont renvoyé cette image-là en me disant, mais toi, tu lâches rien, t'es bonne négociatrice. Tu vois, pas en me disant que j'étais bonne commerciale, mais en me disant, mais tu lâches rien, puis toi, tu as le contact facile, tu vas parler avec les gens. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais oui, moi, je m'assois sur un banc et je papote avec tout le monde. Je lâche rien, effectivement. Je suis très déterminée. Quand je veux quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais tout ça, c'est des qualités de commerciale, en fait. Et tout ce que j'avais réfuté tout au long de ma vie, je me suis dit, ben, peut-être qu'effectivement, toutes ces compétences que mon père avait XXL, il n'avait pas des compétences de gestion par contre, hein, là c'était catastrophique, mais ces compétences que lui avait, peut-être que moi j'en ai certaines aussi. En tout cas, ce contact humain, ce réseau, cette facilité à parler, à aller toquer aux portes, etc., je l'ai. Et donc je me suis dit, ben, c'est peut-être le moment ou jamais d'essayer l'immobilier. Nous, on a cherché une maison pendant 1 an et demi et puis on n'a été pas forcément très très bien accompagnés. En tout cas, pas par tout le monde. Et puis pour moi, enfin, le logement, c'est vraiment quand on a un toit au-dessus de la tête et qu'on est bien logé. J'ai un fort besoin de sécurité et ça passe beaucoup par le logement. Et quand on voit autour de nous les gens qui sont mal logés, qui sont pas logés, on peut pas se sentir en sécurité, on peut pas vivre bien en fait quand on est mal logé.
Oui, c'est se faire sa petite bulle un peu.
C'est ça. C'est se faire son cocon qui est pas forcément très grand, mais en tout cas qui permet de se sentir en sécurité. Et ça, c'est très, très, très important. C'est quelque chose qui me parle énormément, moi qui ai beaucoup, beaucoup déménagé tout au long de ma vie, par les expériences de mon père.
Et comment tu t'es formée alors? Donc, t'as pris la place de ta belle-maman?
Alors, pas du tout. Et puis, j'ai pas fait ça en 2 jours. En fait, quand j'ai commencé à y réfléchir, en septembre-octobre, j'ai fait une enquête métier. Donc, j'ai été rencontrer des professionnels de l'immobilier que j'avais dans mon secteur. Donc, j'ai été rencontrer voilà, la directrice d'une agence dans ma ville. J'ai eu des entretiens téléphoniques avec des personnes qui travaillent dans l'immobilier pas très très loin de chez moi. pour leur dire, bah, c'est quoi l'immobilier? Moi, je m'en fais cette idée-là. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est quoi l'immobilier en période de crise, en tout cas en période d'inflation? Est-ce que je peux me lancer dans l'immobilier à 48 ans? Est-ce qu'il faut que je sois formée? C'est quoi le statut? Enfin voilà, j'ai vraiment fait une enquête métier très poussée pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, j'ai rencontré une agent immobilière qui nous a vendu notre maison, là, qu'on a acheté il y a quelques mois, et qu'on avait trouvé absolument remarquable par ses conseils. J'ai été la rencontrer, on en a parlé, et puis elle m'a dit, ben, ça serait bien. Elle m'a dit, de toute façon, tu testes, tu vois. Si ça marche pas, c'est pas grave, mais tu testes. Et donc, plusieurs professionnels de l'immobilier m'ont dit ça. Et donc, quand je me suis dit, allez, c'est bon, j'y vais, ben, j'ai fait appel à cette nana avec qui j'avais eu un super contact. J'ai passé un entretien et puis j'ai été embauchée donc dans cette agence qui est à proximité de chez moi. Tu arrives sans formation.
Alors, j'avais jamais entendu le terme de enquête métier. Donc, comment tu fais, comment tu démarches un peu les gens? Parce que voilà, c'est souvent le conseil qu'on donne, mais concrètement, qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils aient aussi envie de répondre à tes questions?
Alors après, ils ont envie de parler d'eux de toute façon. Les gens adorent parler d'eux et quand il s'agit de parler de leur métier, ils adorent. Donc du coup, enfin, personne ne m'a dit non, ça m'emmerde de vous recevoir 10 minutes. J'ai pas du tout envie de vous parler de mon métier. Donc voilà. Donc je me suis présentée tout simplement en disant bah voilà, j'arrive un petit peu au bout de mon activité, enfin de ma carrière en communication digitale. J'ai envie de faire autre chose. J'ai pensé au métier de l'immobilier, mais je veux vraiment savoir si ça peut me correspondre. Et si c'est pas pareil, si c'est pas une idéalisation que je me fais, et si je peux moi y arriver. Et donc du coup ils m'ont reçu mais très très naturellement. Et donc du coup je leur ai juste demandé de me parler de leur métier, de me parler de ce qu'ils percevaient, de leur parcours. Parce que dans l'immobilier il y a énormément de reconversions professionnelles. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient d'autres vies professionnelles avant. Et donc, du coup, c'était très naturel pour eux et pour elles de me recevoir et de me parler de leur métier et de leur démarche.
Oui, elle savait ce que c'était. Et c'est vrai que c'est un
Oui, tout à
super
fait.
conseil, en tout cas, déjà de rencontrer des personnes et puis poser ses premières questions avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et quelles ont été peut-être tes surprises? Alors, peut-être personnellement, et puis eux, est-ce qu'ils t'ont dit des choses où justement, tu n'avais pas forcément imaginé ça du métier d'agent immobilier?
J'étais bien informée, voilà, j'avais bien suivi aussi la carrière de ma belle-mère, hein, donc j'avais bien suivi quand elle vendait, quand elle vendait pas, elle rentrait des mandats, ces difficultés-là, etc. Donc j'ai pas été tellement surprise. Là où j'ai été plus surprise sur moi, c'est qu'effectivement, je suis très à l'aise avec les gens et que la prospection terrain allait toquer aux portes, c'est pas quelque chose de difficile pour moi en fait. Voilà, je me demandais si j'allais vraiment réussir à dépasser ma peur, mes craintes, l'envie de pas déranger, etc. Et puis finalement, on se rend compte que les gens sont ravis de parler, de discuter, de nous croiser dans l'après-midi, de faire une pause avec nous, et donc ça se passe très bien.
Parce que c'est quoi le quotidien? C'est tu vas dans un quartier, tu vas voir les commerçants de quartier, tu leur demandes s'il y a des biens.
Alors c'est un peu ça, mais sauf que tu vas voir les commerçants, mais tu vas aussi voir les habitants en fait. Et alors, plutôt que de leur demander s'il y a des biens à vendre, c'est plutôt de te faire remarquer, en fait, de faire connaissance. Donc, la première étape, c'est vraiment de faire, voilà, le tour de ton secteur, le tour des quartiers, te présenter. Ben, moi, je suis la référente locale. Ah, tiens, ben, vous avez un beau jardin. Ben, moi aussi, j'adore ça comme passion. La dernière fois, je suis rentrée chez une dame, elle était en train de poncer des meubles. Et elle avait un buffet qui était exactement celui de la grand-mère de mon compagnon que je dois rénover également. Donc, on a passé une demi-heure à regarder ces outils, à parler ponçage, peinture, huile, teinture, etc. Donc, l'idée, c'est pas effectivement d'arriver en lui disant, bah, est-ce que vous vendez votre maison? De toute façon, c'était ridicule parce que c'était non. Mais c'était vraiment de faire connaissance. Et puis, voilà, de se faire connaître. Et puis, peut-être qu'un jour, elle aura un projet immobilier ou elle aura des amis qui auront un projet immobilier. Et elle pensera à moi parce que je suis sympa. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment se faire connaître.
Et tu es où exactement maintenant?
Alors, dans le Vaucluse, à côté de Carpentras.
Ok. Et alors, quels sont les types de biens un peu que tu as? Donc, tu fais que achat-vente?
Oui, alors on a un service location, mais nous, mes collègues et moi, on fait essentiellement de l'achat-vente, pardon. Et on a de tout, on a des terrains, on a des appartements pour les secteurs de Carpentras. Et après, c'est des maisons de village ou des belles villas provençales que nous avons au pied du Mont Ventoux. Et ce sont des biens qui vont aller de 300 000 euros à beaucoup plus parfois.
Et donc, tu t'es auto-formée en fait.
Alors, en fait, les agences te forment. Moi, c'est ce que je leur ai demandé. Je leur ai dit, est-ce que je dois venir former? Parce que moi, j'avais encore du CPF. Donc, je me suis demandé si je n'allais pas l'utiliser pour ça. Ils m'ont dit, non, non, nous, on a effectivement tous les logiciels, des actions de formation. Et donc, du coup, je suis formée en interne, à distance, par des visios, par les formateurs de l'entreprise. Moi, je travaille chez CIM Immobilier, qui est une boîte nationale qui a 45 ans d'existence, qui est du côté de Bordeaux, mais avec des agences partout. Et en fait, ils ont des formateurs attitrés avec lesquels je peux travailler. Et je vais partir aussi bientôt sur place pour des sessions de formation au siège social.
Et alors, comment ça se passe? Donc, quel est ton statut? Tu es indépendante? Tu gagnes que sur les commissions? Comment ça se passe un petit peu ta rémunération?
Alors, les agents immobiliers peuvent être soit salariés, soit indépendants. Il y a assez peu d'agences qui salarient les agents. Moi, j'ai fait le choix d'être indépendante. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mon statut salarié dans une coopérative. J'ai fait une rupture conventionnelle qui me permet de toucher le chômage pendant cette reconversion. Et donc, j'ai créé ma micro-entreprise en tant qu'agent commercial. Tout à fait. Et donc, je suis payée uniquement à la commission. Alors, j'en avais conscience. Hein, tout le monde me l'avait dit dans le métier. Je savais que ça se passait comme ça. Mais effectivement, entre le jour où tu commences en tant qu'agent immobilier et le jour où tu commences à gagner de l'argent, il peut se passer plusieurs mois. Ça peut être très long parce qu'en fait, il faut rentrer des biens et il faut ensuite les vendre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande d'être préparé sur plein de choses. Hein, mais sur un plan financier, il faut vraiment le préparer. Tu ne peux pas te lancer comme ça si tu n'as pas des sous derrière, si tu n'as pas le chômage ou en tout cas, si tu n'as pas d'organisation, ce n'est pas possible.
Et c'est combien à peu près la commission d'un agent immobilier?
C'est à peu près 25% quand tu rentres un bien et 25% quand tu vends le bien. Et après, les commissions d'agence varient selon les agences, mais c'est entre 4 et 6% sur le montant d'un bien.
Et 25%, c'est quoi du coup?
Alors, 25%, c'est quand tu rentres un mandat, c'est-à-dire quand tu fais rentrer un bien à vendre. Et quand tu le vends, tu touches également 25%. Mais alors, l'idéal, c'est de rentrer un bien et de le vendre toi-même. Mais c'est pas parce que tu as rentré un bien que tu vas le vendre toi. Peut-être qu'il va être vendu par une autre agence parce que les biens sont souvent dans différentes agences. Peut-être qu'il va être vendu en direct particulier par le propriétaire. Peut-être qu'il va être vendu par un de tes collègues qui a l'acquéreur qui correspond à ce bien-là. Donc, tu fais pas forcément l'entrée et la sortie.
Ah oui, mais tu as déjà quand même une commission quand tu le rentres.
Seulement quand le bien est vendu.
Ah oui, ok. C'est à ce moment-là.
Voilà. Puis après, une fois que le bien est vendu, il faut attendre à peu près 3 mois que l'acte authentique, que l'acte définitif soit signé. Donc, c'est pour ça que c'est une carrière qui se construit. Hein. Voilà, tu vas pas dans l'immobilier en te disant bah, « super, je vais travailler dans l'immobilier ». Non, non, il faut vraiment réfléchir à comment tu vas vivre hein, le moment où tu vas commencer, le moment où tu vas commencer à gagner tes premières commissions.
Et excuse-moi, j'ai pas tout à fait compris entre 25% et 4 à 6%, comment ça se...
Alors, 4 à 6%, ce sont les frais d'agence. Voilà, tu vois, tu gagnes pas 25% de commission sur le montant de la maison, tu gagnes 25% sur les frais d'agence.
Ah ok, sur les 4 à 6%. Ok, ok. Et à quoi ressemble ton quotidien alors voilà, si on veut se projeter, à quoi ça ressemble un peu le quotidien d'un agent immobilier?
Un agent immobilier qui commence, son quotidien, c'est la prospection en fait. Donc, c'est d'aller sur le terrain et puis voilà, comme je te disais, de taper aux portes, d'aller se faire connaître, d'aller voir les commerçants. Donc, c'est beaucoup ça. Après, moi, je suis comme on est une équipe qui s'entend très bien et dans laquelle il y a pas mal d'actions de formation. Je suis mes collègues qui vont faire des estimations, qui vont faire des compromis. Voilà, ceux qui sont plus avancés, qui ont déjà leur portefeuille, ben, je les suis dans leurs actions pour voir comment ça se passe. Sinon, c'est des visites. Les journées sont jamais les mêmes en fait. Les journées sont très, très différentes. Mais quand tu commences, le plus gros, ça reste de la prospection puisqu'il faut que tu fasses rentrer des biens, en fait. Si tu n'as pas de biens à vendre, tu n'as pas d'activité.
Et est-ce que c'est pas difficile parfois de se motiver à aller faire de la prospection?
Alors, je te dirais que pour l'instant, je commence, donc ça va. Mais c'est vrai qu'effectivement, je me pose la question en me disant, mais est-ce que dans 6 mois, j'aurai la même envie, la même confiance en moi surtout? C'est ça. Aujourd'hui, j'ai confiance. Est-ce que dans 6 mois, j'aurai toujours autant confiance? C'est vraiment un métier de rigueur et de constance, en fait, l'immobilier. On me le disait, je m'en rends vraiment compte. C'est vraiment un métier très, très difficile pour ça. Il faut garder confiance et puis il faut garder l'énergie. Moi, j'ai des journées très denses, en fait, qui commencent à 9h, qui finissent à 17h, 17h30. Donc, on se dit que ce sont des journées assez courtes. Mais toute la journée, il faut que je sois vraiment très énergique. Parce que toute la journée, je vais rencontrer des gens différents. Il faut que j'y aille avec le sourire, que je sois de bonne humeur, que je trouve des sujets pour leur parler, pour discuter avec eux, que j'alimente la discussion. Donc, du coup, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme. Et ça, je pense qu'effectivement, dans la durée, ça peut être compliqué à conserver.
Et t'as déjà fait ta première vente ou pas alors?
Non, pas encore, malheureusement. Au bout d'un mois, franchement, un agent immobilier qui vend au bout d'un mois, c'est soit il a un énorme réseau, soit il a une énorme chance.
C'est au bout de combien de temps en général?
C'est assez variable, mais c'est 6 mois, 8 mois, 1 an.
Ah oui. Alors, c'est un peu cliché, mais on a souvent le cliché des agents immobiliers qui gagnent bien leur vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que peut-être tu peux nous donner voilà, le salaire moyen dans ton agence ou peut-être si tu as eu des fourchettes?
Salaire moyen dans mon agence, je ne sais pas du tout. Je pense que quand tu commences, tu gagnes pas grand-chose. Quand tu as 5, 6, 7 ans d'expérience, que tu es bien implanté dans ton réseau, que les gens te connaissent, etc., je pense que tu peux bien gagner ta vie. Mais tout est variable aussi en fonction des circonstances économiques. L'année aujourd'hui, elle est quand même plus difficile que les années post-Covid où les agents immobiliers là, vendaient très, très facilement. Là, aujourd'hui, c'est quand même plus difficile. Les biens restent chers et les vendeurs ont du mal à baisser leur prix. Les acquéreurs attendent un peu parce que les taux d'intérêt commencent à se stabiliser, commencent à baisser un petit peu, mais ils restent assez hauts par rapport à ce qu'on a connu. Donc, on est dans un marché un peu plus tendu. Donc, je pense que les rémunérations de cette année, de l'année 2024, vont être moindres que celles de 2023. Mais encore, c'est variable. Autour de moi, je vois des agents qui travaillent très bien et qui ont très bien gagné leur vie en 2023. Sur des montants de rémunération, je ne sais pas, j'imagine que ça peut monter à 5, 6, 7 000 euros par mois, peut-être pour certains.
Bon, on voit souvent à la télé tout ce qui est agent immobilier de luxe. Est-ce que tu penses que c'est facile de devenir agent immobilier de luxe? Est-ce que toi, par exemple, c'est une possibilité pour toi?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle luxe. Nous, on peut avoir des maisons à 1 million. Un peu plus. Est-ce que ce sont des biens de luxe? Ce sont des très beaux biens. Par contre, des biens à plus d'un million, 1,2 million, dans la région où je vis, près de Carpentras, il n'y en a pas beaucoup. Tu vas dans le Luberon, dans le Vaucluse, là, tu vas en avoir plus. Donc, tout dépend ce qu'on appelle luxe. Et après, alors, forcément, quand tu vends un bien qui coûte très, très cher, la commission, elle est beaucoup plus importante. Par contre, le temps de vente d'un bien coûte très cher, peut être bien, bien plus long. Ça peut se compter sur des mois, voire sur des années pour des biens qui sont très, très chers. Et comme il y a moins de biens, donc je pense que c'est une expérience complètement différente en fait.
Oui, c'est vrai. Plus c'est gros, finalement, plus ça prend du temps. Donc faut être plus
Plus c'est
patient.
rare, plus ça prend du temps, plus les clients sont pas forcément plus difficiles ou plus exigeants, mais voilà, une grosse somme à investir, c'est pas un dossier facile. Même si un prêt à 300 000 euros, ça peut être très compliqué d'obtenir aussi. Donc, c'est pas forcément plus simple. Mais en tout cas, il y a plus de maisons à 300 000 euros que de maisons à 1,4 million et au-delà.
Et alors, donc tu t'es reconverti pour la deuxième fois à 48 ans. Est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs qui, tu vois, auraient 45, 50 ans et puis qui hésiteraient à se reconvertir en se disant, bon, je sais pas si j'ai l'énergie, je sais pas si on va vouloir de moi.
Alors moi, je me suis posé cette question. Je me disais, est-ce que mon âge va être un frein? Autant je me suis dit effectivement, en communication digitale, peut-être que mon âge commencera à être un frein à un moment. Dans l'immobilier, j'ai cet avantage-là que plus on est âgé, enfin plus on est âgé, que l'âge est considéré comme signe de confiance et d'expérience. Voilà. Donc du coup, à 48 ans dans l'immobilier, ça choque personne. 48 ans dans la communication digitale, ça ne choque personne, mais quand j'en aurai 55, peut-être qu'effectivement, on me préférera quelqu'un de plus jeune. Donc dans l'immobilier, je n'ai pas ce souci. Pour toute reconversion professionnelle, moi, je dirais qu'il faut vraiment bien, bien, bien se préparer et s'assurer une sécurité financière qui permet d'essayer et de se dire, bah oui, j'ai tenté, bah, ça a marché, c'est bien, ça n'a pas marché, tant pis. Mais en tout cas, je ne me suis pas mise dans une situation financière compliquée. Donc, il faut vraiment préparer ça et puis après lever les freins. lever les freins comme moi je le fais et je continue à le faire petit à petit, hein, tout doucement. J'ai encore plein de freins et qui sont terribles autour de ce métier de commercial. J'arrive pas à dire à moi que je suis commercial. Hein. Moi, sur mes cartes, j'ai pas mis agent co, hein, je mets conseillère en immobilier. Donc j'ai encore beaucoup de freins. Donc il faut, c'est un cheminement et c'est un travail constant pour lever les freins qui ne bloquent pas une réussite ou en tout cas un essai qui pourrait être satisfaisant.
Et comment réagit ton entourage à ta deuxième reconversion?
Alors, mon compagnon, il m'a dit, ah bah tiens, bah depuis le temps que tu y penses, ça y est, tu y vas, bah c'est très bien. Et après, en fait, tout le monde m'a dit, alors, j'ai une personne dans mon entourage qui m'a dit, oh là là, mais tu es folle, c'est vraiment pas le bon moment. Et tout le monde, en fait, qui m'a dit, mais oui, t'es faite pour ça. Tu vas y arriver parce que tu sais parler, parce que tu as le contact facile. Et donc, plein de monde m'ont dit, bah moi, oui, je te vois bien dans l'immobilier.
Et alors, est-ce que tu penses que c'est ta dernière reconversion?
Eh ben non. Alors pour l'instant, je suis très heureuse, mais c'est le tout début. Mais pour autant, je n'exclus pas du tout de faire autre chose. Alors je ne sais pas du tout où, hein, et puis pour l'instant, ça ne se pose pas du tout. Alors se pose la question, je me dis effectivement, bah, si dans un an, il ne s'est rien passé dans l'immobilier, bah, faudra quand même que je réfléchisse à autre chose, hein, en me disant, bah, c'était peut-être pas pour moi, ou en tout cas, c'était peut-être pas, je sais pas, porteur, ou je me suis peut-être trompée sur quelque chose. Donc j'ai toujours quand même un petit peu ça en tête, hein, je le garde en tête. Surtout la nuit, hein, je t'avoue que les nuits sont pas toujours très très sereines. Mais pour autant, je me dis aussi que les contacts que je fais aujourd'hui peut-être m'amèneront à une autre carrière ou à peut-être quelque chose, pas forcément de totalement différent, mais peut-être quelque chose de plus englobant toutes mes compétences. Aujourd'hui, je fais toujours de la communication, j'ai conservé quelques clients. Je suis toujours correspondante de presse. Maintenant, je fais de l'immobilier, donc je vais développer cette partie commerciale. Et je me dis que peut-être à terme, quelque chose d'autre fera sens dans ma vie dans quelques années autour de la communication, de la partie commerciale, du contact, de la transmission, parce que je transmets beaucoup via mes formations. Donc non, je n'exclus rien.
Parce qu'à l'heure actuelle, tu as l'impression que c'est quelle compétence que tu as qui n'est pas englobée?
Aujourd'hui, tu vois, la communication est quand même. Mes missions de communication sont assez séparées de mes missions en immobilier, même si j'utilise les réseaux sociaux pour ma communication personnelle et professionnelle. Mais je ne sais pas, je me dis qu'un jour, ces compétences que j'ai d'aller vers les autres, de créer du réseau, peut-être qu'un jour, ça déboucherait sur un poste, tu vois, où effectivement, on aura besoin de mes compétences commerciales que je suis en train de développer, de mes compétences humaines, de mes compétences de communication, et peut-être qu'un jour, ça donnera un poste plus global. Peut-être pas, mais en tout cas, voilà, je me ferme aucune porte. Aujourd'hui, je suis vraiment à fond dans l'immobilier, mais je me fermerai aucune porte, ça, c'est certain.
Après, je pense que quand on s'est reconverti une fois, on se dit que c'est possible de le faire plein d'autres fois, en fait.
Oui. Alors, pour autant, j'ai toujours détesté les gens qui disaient, mais si t'as envie de le faire, fais-le, rien n'est impossible. Moi, si j'ai réussi à le faire, c'est parce que je me suis préparée, parce que j'avais les conditions de le faire, parce que j'étais salariée avant, etc. Tout le monde ne peut pas changer de boulot, tout le monde ne peut pas renoncer à un poste salarié, à un salaire, etc. Donc, je n'aime pas du tout cette phrase en disant, que je trouve très culpabilisante, en disant, bah, si tu veux le faire, tu peux. C'est pas si simple que ça. Ça se prépare. C'est pas impossible. Et tous les jours, on voit des parcours de reconversion professionnelle absolument passionnants et sur ton podcast, on en voit vraiment des incroyables. Donc, c'est vraiment possible, mais ça demande quand même de l'organisation, un cheminement intellectuel, un cheminement personnel, professionnel, un cheminement familial aussi, hein, parfois. Donc, ça demande quand même beaucoup de préparation et ça se fait pas au hasard.
Oui, ça prend du temps. Alors, dernière question sur la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
De tester, d'y aller, de tester et puis de me lancer en fait. C'est vraiment ça, de me dire voilà, tu as envie d'y aller, et ben teste. Lance-toi, teste et puis tu verras bien.
Après, je pense que tu as raison, c'est aussi une bonne idée de se dire je teste pendant une période donnée. Tu vois, là, tu t'es dit bon bah je fais ça un an et puis comme ça, bah. Pendant cette année, tu ne te poses pas la question d'arrêter ou de continuer.
Alors, tu te poses la question quand même un peu toutes les nuits, comme je disais. Parce que ça fait peur, hein. Mais en tout cas, effectivement, je me suis organisée pour me laisser du temps pour voir si ça marche ou pour voir si ça marche pas. Et si ça marche pas, Après, voilà, si ça marche pas, hein, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Hein, et d'ailleurs, c'est une grosse interrogation qui revient chaque nuit en me disant, bah voilà, j'ai pas de plan B. J'aurais peut-être du mal à retourner dans la communication. Je ne pourrais pas retourner dans le juridique. Bon, voilà, si ça marche pas, 49 ans, je vais faire quoi? Mais pour l'instant, j'y suis pas. J'y suis pas. Donc pour l'instant, j'y vais à fond. Je me donne toutes les chances pour réussir. Et Inch'Allah, on verra bien.
Et alors, actuellement, comment tu as t'as financé grâce au chômage?
Ouais, chômage, économie personnelle et puis mes missions de communication à côté. Donc ça fait des longues journées.
Bah, c'est vrai que c'est beaucoup de temps et d'énergie de se reconvertir. Et c'est vrai que parfois, quand on voit le. Enfin, on oublie un petit peu, je pense. Là, c'est intéressant parce que tu es en plein dedans. Mais c'est vrai que je pense qu'après quelques années, on oublie un petit peu toute cette phase d'interrogation qu'on a eue.
Oui, bien sûr. Et puis après, ça devient plus habituel, ça devient plus quotidien. Mais effectivement, quand on est dedans, on se pose plein plein de questions et les journées sont fatigantes, denses, mais passionnantes aussi. Et apprendre un nouveau métier, moi j'avais vraiment ça, hein, tu vois. Cet été, je me suis dit, mais quand je pensais à apprendre un nouveau métier, je sentais des papillons dans le ventre. Je me disais, mais ça, apprendre un nouveau métier, je trouve ça excitant en fait.
Ouais, d'avoir à nouveau de la stimulation.
Voilà, je trouvais ça vraiment excitant.
Et qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs qui hésiteraient à sauter le pas?
Alors, pour aller dans l'immobilier ou pour refaire une reconversion professionnelle,
Tous les deux.
se préparer et puis tester. Et voilà, y aller en toute connaissance de cause, bien se renseigner, bien se préparer financièrement, bien se préparer au niveau de son entourage. C'est important, hein, d'avoir un entourage quand même qui nous aide, hein. Franchement, quand on a 20 personnes autour de nous qui nous disent non, c'est une connerie, n'y va pas, j'ai pas envie que tu fasses ça, tu vas nous mettre dans la merde financièrement, etc., c'est très, très, très compliqué. Moi, j'étais vraiment bien portée, hein, donc ça, c'est important. Et puis voilà, une fois qu'on a réussi à mettre toutes ces questions-là de côté, y aller à fond, et puis voir si ça marche, et puis voir si l'étincelle, elle est toujours là finalement sur le terrain par rapport à ce qu'on avait imaginé.
Moi, c'est un super conseil, je pense, de tester et puis aussi les entretiens métiers. C'est ça le terme.
Oui, moi, oui. En fait, je crois que j'ai entendu ça. Parce que comme j'ai changé pas mal de métiers, j'ai été régulièrement pris en charge par Pôle emploi et je crois que c'est eux, hein, qui disaient ça. Alors maintenant, c'est France Travail. Je crois qu'en quête métier, c'est leur terme à eux. Et pour moi, c'était essentiel en fait d'aller me confronter à des professionnels, bah, qui eux sont dans le job et qui eux ont pu me dire, bah voilà, notre métier c'était ça et pas quelque chose que j'avais idéalisé. Hein, parce que si on s'en tient effectivement aux émissions de Stéphane Plaza, l'immobilier c'est pas tout à fait ça, hein, quand même. Hein.
Un grand merci Olivia. Donc je mettrai tes réseaux
Merci à
sociaux pour
toi.
les auditeurs qui voudraient te suivre. Merci pour tout ce que tu as partagé.
Super, bah écoute, merci à toi, c'était un grand, grand moment de plaisir.
Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, @oserlareconversion, et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S, @oserlareconversion.com.